Pape François et Don Marco Pozza. Quand vous priez, dites « Notre Père ». Chapitre 7. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Marco Pozza. C'est maintenant le tour de cette très belle image. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Cela me rappelle un détenu qui, le soir de Noël, l'année dernière, lisait la prière des fidèles où il est écrit « Prions le Dieu Sauveur ». Sa langue a fourché et il a dit « Prions le Dieu Soudeur ». Et cela m'a remis en mémoire mon père et son fer à souder. Deux morceaux de métal cassés que mon père ne jette pas mais répare avec le fer à souder. J'ai songé « Tu vois, les pauvres comme moi ont traduit la miséricorde de Dieu ». Pour moi, la question de la conjonction « comme » reste sans réponse. Est-ce qu'elle signifie « parce que nous aussi, nous pouvons faire cela » ou bien « dans la mesure où je pardonne, toi Seigneur, tu me pardonnes » La perspective n'est pas la même. Pape François. C'est une requête qui plaît aux banquiers, enfin jusqu'à un certain point. C'est qu'ils n'aiment pas beaucoup pardonner, ils ne remettent pas les dettes dans ce monde où l'argent est au centre de tout. Le pardon, il est très difficile de pardonner. Il y a une seule condition essentielle cependant, sans laquelle jamais personne ne pourra pardonner. On ne peut pardonner que si on a reçu la grâce de se sentir pardonné. Seul celui qui se sent pardonné peut pardonner à son tour. Je pardonne parce que, auparavant, j'ai été pardonné. Songez aux docteurs de la loi, à ceux qui faisaient la guerre au Christ. Ils croyaient être des justes, ils n'avaient pas besoin de pardon et ne comprenaient pas pourquoi le Christ pardonnait les pécheurs et allait manger avec eux, les guérissait et se mêlait aux lépreux. Il pardonnait tout le monde et eux ne le comprenaient pas car ils se sentaient tellement justes qu'ils ne pouvaient pas connaître cette expérience magnifique. Moi aussi, comme chrétien, comme personne, je vais vous raconter ce que j'ai éprouvé. Un jour, quand j'ai entendu que le Seigneur m'avait pardonné tant de choses, j'ai pleuré de joie. Aujourd'hui encore, quand j'évoque ces larmes et que c'est à moi de pardonner, je me dis « c'est sans commune mesure, c'est peu de choses par rapport à cette foi-là ». Marco Pozza. Je vais vous faire une confidence, Saint-Père. J'étais de ceux qui soutiennent que celui qui s'est trompé doit pourrir en prison. Aujourd'hui, Dieu m'accorde la grâce d'être le pasteur de ces gens, d'être avec eux. De notre rencontre, je me souviens moi aussi du jour et de l'heure. À partir de ce jour, mon existence n'a plus été la même. Empli de honte, j'ai entendu les pulsations de la Renaissance. Je l'ai découvert en lisant un de vos textes sur la grâce de se sentir honteux. J'ai eu honte parce que j'avais chassé Dieu de ma vie et j'ai repris le chemin de la quête du Père. Aujourd'hui, rien n'est plus cher à mon cœur que de m'être regardé dans le miroir et d'avoir éprouvé une honte immense de m'être éloigné de lui, de notre maison. Pape François. Le récit de la Passion contient trois épisodes liés à la honte. Trois personnes éprouvent de la honte. La première est Pierre. Pierre entend le coq chanter au moment où il ressent quelque chose en lui et voit le Christ se retourner et le regarder. Sa honte est si grande qu'il pleure amèrement. La deuxième est le bon larron qui dit à son compagnon d'infortune « Pour nous, c'est justice, nous payons nos actes, mais lui n'a rien fait de mal. Il se sent coupable, il a honte, et ainsi, soutient saint Augustin, grâce à cette honte, il a gagné le paradis. Quant à la dernière honte, celle de Judas, elle est celle qui m'émeut le plus. Judas est un personnage difficile à comprendre, les interprétations de sa personnalité sont très nombreuses. Mais à la fin, lorsqu'il comprend ce qu'il a fait, il se rend chez les justes, chez les grands prêtres. « J'ai péché, dit-il, en livrant un sang innocent. » Mais ils dirent « Que nous importe ? À toi de voir. » Et il s'en va, écrasé par le poids de sa faute. S'il avait rencontré la Vierge, peut-être les choses auraient-elles pris une autre tournure, mais le pauvre s'en va, ne trouve aucune issue et se pend. Il est une chose qui me fait penser que l'histoire de Judas ne s'arrête pas là. Quelqu'un va peut-être penser « ce pape est un hérétique ». Eh bien non, allez voir un chapiteau de la basilique bourguignonne de Vézelay. Les hommes du Moyen-Âge enseignaient le catéchisme à l'aide de sculptures, d'images. Sur ce chapiteau, on voit d'un côté Judas pendu, mais de l'autre le bon pasteur qui le porte sur ses épaules et l'emmène. Les lèvres du bon pasteur esquissent un sourire non pas ironique, mais complice. Au-dessus de mon bureau se trouve une photographie de ce chapiteau, divisé en deux parties, parce qu'il donne à penser. Il existe tant de manières d'avoir honte. Le désespoir en est une, et nous devons essayer d'aider les désespérés, afin qu'ils trouvent le chemin véritable de la honte, et n'empruntent pas celui qui finit avec Judas. Ces trois personnages de la Passion m'aident beaucoup. La honte est une grâce. Chez nous, en Argentine, une personne qui ne sait pas se comporter et fait du mal est un sans honte. L'entraînement au don et au pardon. Je voudrais souligner aujourd'hui cet aspect, que la famille est une grande école d'entraînement au don et au pardon réciproque, sans lequel aucun amour ne peut durer longtemps. Sans se donner et sans se pardonner, l'amour ne reste pas, il ne dure pas. Dans la prière qu'il nous a lui-même enseignée, c'est-à-dire le Notre Père, Jésus nous fait demander au Père « Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. » Et à la fin, il commente « Car si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père non plus ne pardonnera pas vos fautes. » On ne peut vivre sans se pardonner. Ou tout au moins, on ne peut vivre bien, en particulier en famille. Chaque jour, nous nous faisons du mal, l'un à l'autre. Nous devons tenir compte de ces erreurs, dues à notre fragilité et à notre égoïsme. Mais ce qui nous est demandé, c'est de guérir immédiatement les blessures que nous nous provoquons, de retisser immédiatement les fils que nous brisons dans la famille. Si nous attendons trop, tout devient plus difficile. Et il y a un secret simple pour guérir les blessures et pour éliminer les accusations. C'est le suivant. Ne pas laisser que la journée prenne fin sans se demander pardon, sans faire la paix entre époux et épouse, entre parents et enfants, entre frères et sœurs, entre belles-filles et belles-mères. Si nous apprenons à nous demander immédiatement pardon et à nous donner le pardon réciproque, les blessures guérissent, le mariage se fortifie, et la famille devient une maison toujours plus solide, qui résiste aux secousses de nos méchancetés, petites et grandes. Et pour cela, il n'est pas nécessaire de se faire un grand discours, mais une caresse suffit. Une caresse et tout est fini et recommence. Mais il ne faut pas finir la journée dans la guerre. Si nous apprenons à vivre ainsi en famille, nous le faisons également en dehors, partout où nous nous trouvons. Il est facile de demeurer sceptique sur cela. De nombreuses personnes, même parmi les chrétiens, pensent que c'est une exagération. On dit oui, ce sont de belles paroles, mais il est impossible de les mettre en pratique. Mais grâce à Dieu, il n'en est rien. En effet, c'est précisément en recevant le pardon de Dieu que, à notre tour, nous sommes capables de pardon envers les autres. Pour cela, Jésus nous fait répéter ces paroles chaque fois que nous récitons la prière du Notre Père, c'est-à-dire chaque jour. Et il est indispensable que dans une société parfois impitoyable, il y ait des lieux, comme la famille, où l'on peut apprendre à se pardonner les uns les autres.